France Inter. Grand bien vous fasse, le podcast.
Le couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille, pavé de fleurs et de bonnes intentions. Je vous propose donc la série « Couple, le kit de survie ». Dans cet épisode, faut-il vraiment chercher la perfection dans le couple ? Nos experts répondent à cette question.
Il était une fois une princesse.
Et cette princesse, c'était vous.
Qui devint amoureuse.
Est-ce que ça a été difficile ?
Ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui.
Était-il fort et beau ?
Était-il grand, très grand ?
Il n'a pas son égal dans le monde entier. Un jour, mon prince viendra.
Bonjour, Cécilia Como.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste, sexologue, clinicienne et thérapeute de couple. Vous avez publié chez Flammarion « Le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse » avec en couverture un château de contes de fées de Guingois.
Absolument, pour symboliser l'imperfection dans ce qui nous anime, c'est-à-dire un couple parfait.
Bonjour Camille Rocher.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue et thérapeute de couple, membre de la Société française de thérapie familiale, et vous publiez chez Larousse les 5 croyances qui empêchent d'être amoureux en couple. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Le prince charmant de l'étape, vous êtes rédacteur en chef du 1 Hebdo, et vous publiez Le 1 des libraires, Écrire l'amour de Jane Austen à Mona Chollet. C'est actuellement en kiosque. Alors Cécilia Como, Camille Rocher, deux phrases mettent la pression à tous les couples ou à ceux qui aspirent à en former un. Il était une fois et ils vécurent heureux. Deux phrases archétypales qui font référence aux contes de fées qui façonnent notre imaginaire. Cendrillon, Blanche-Neige.
Et il était une fois, ça implique que cette fois soit magique et merveilleuse. C'est surtout ça qui pose souci, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas merveilleux ni magique. Donc la question qui arrive derrière pour eux, c'est est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble dès lors que les étoiles ne se sont pas illuminées sur notre passage. Et ils vécurent heureux, oui, on voit beaucoup d'ailleurs les gens, pour signifier leur bonheur, vous annoncent leur année de mariage. Ce qui me stupéfait toujours. En disant, bah nous on a 35 ans de mariage ou 50 ans de mariage, sous-entendu, c'est un gage pour être heureux. Donc il y a vraiment cette idée que les gens qui sont depuis longtemps ensemble, d'abord sont des couples parfaits, et très souvent, oui, on s'accroche beaucoup à ces instants du début, on les momifie, et dès qu'ils s'évanouissent un peu, on commence à s'inquiéter.
Camille Rocher.
Alors les débuts sont évidemment quand même importants parce qu'ils font partie du mythe du couple, et c'est ce sur quoi d'ailleurs on va retrouver quand moi je reçois un couple dans mon cabinet qui va pas bien. On parle quand même aussi du début pour savoir comment ça s'est passé, et ça tend quand même à rassurer de se dire que ça a existé, ce début passionnel a quand même pu exister entre nous, et ça peut inquiéter quand on se dit mais on n'a même pas ressenti ça au départ. Donc évidemment que ce n'est pas suffisant en soi, parce que bien sûr que l'amour se transforme, et encore une fois c'est les 5 croyances qui empêchent d'être heureux et pas amoureux en couple. Il y a une petite erreur au départ, c'est pas grave, mais je reprends.
C'est un lapsus.
Parce que, voilà, exactement.
Alors,
intéressant.
Je vais m'allonger sur le divan.
C'est pour ça que je
de grand bien vous fasse, et vous faites bien d'ailleurs.
Non, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment une différence. C'est que être amoureux, bien sûr, ça fait du bien, ça permet de s'engager. On a un peu, ça a un peu cette folie amoureuse, mais voilà, ça suffit pas et après ça se transforme.
Je redonne le titre de votre livre, Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Alors au-delà des contes de fées, tous les arts ont contribué à façonner le mythe amoureux, à rendre désirable l'état amoureux. Nous rêvons tous de vivre une histoire d'amour qui ressemble à certaines fictions, Cécilia Como.
C'est tellement ancien que je pense qu'on ne peut même pas dater le début. On a l'impression que c'est la culture américaine qui nous a amené vers ça, alors que je pense que la culture, d'ailleurs, Walt Disney était lui-même inspiré des frères Grimm. Donc c'est presque depuis la nuit des temps, c'est une manière de magnifier l'amour et la rencontre, c'est une jolie manière. Toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas passés par ce chemin-là pour leur expliquer que c'est un chemin parmi d'autres d'une vie amoureuse.
Camille Rocher.
Moi, ce que je pense quand même dans les contes, tout ça, c'est que c'est quand même important de pouvoir rêver, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui met à mal le couple, et on parle beaucoup des difficultés de couple, de l'amour qui durera pas, d'un couple à durée déterminée. Et en fait, je trouve que quand même d'avoir ce petit truc en nous qui vient toucher un besoin profond d'être dans un amour qui dure, dans un amour solide, dans un amour avec lequel on va pouvoir construire, qui est un pilier pour nous. Je pense que c'est quand même important, malgré tout, de donner ça à nos enfants aussi. Et tout en étant évidemment réaliste et en disant que l'imperfection, l'ambivalence fait partie de ça. Mais de pouvoir rêver un petit peu à ça, je pense que c'est quand même important pour nous propulser dans la vie.
Vous êtes d'accord avec ça, Cécilia Coumont ?
Oui, je suis d'accord avec ce que dit Camille, mais l'amour qui dure, ça c'est quelque chose finalement, j'ai surtout l'impression moi qu'avant, enfin en tous les cas, en préambule pour que ça dure, il faut déjà apprendre à nos enfants à accepter l'autre dans toute sa différence, et de comprendre que deux humanités qui ont à collaborer, à cohabiter ensemble, c'est normal que ce soit compliqué.
Julien Bisson.
Et c'est amusant qu'on parle des contes de fées parce que le précédent Un des libraires, nous l'avions consacré justement aux contes de fées. Et c'est vrai que l'amour dans ce conte de fées n'est pas tout à fait différent de l'amour qu'on va ensuite rencontrer dans les autres œuvres de fiction. Et dans ce numéro qu'on consacre à écrire l'amour, on le consacre notamment au roman parce que le roman apporte une dimension totalement différente à l'écriture de l'amour. C'est-à-dire que dans le roman, les personnages font partie d'une société. C'est le moment où on invente aussi la société. Elle correspond à l'invention du roman. Et ce ne sont plus les amoureux qui sont seuls dans une bulle, comme ça peut l'être parfois dans des contes de fées, mais les amoureux, les amants, qui sont confrontés à des conventions sociales, qui sont confrontés au passage du temps et qui sont donc confrontés d'une certaine façon à la réalité de l'amour, dans l'amour éprouvé dans sa dimension sociale.
Alors dans la bibliothèque idéale du 1, vous revenez sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Que nous dit la romancière britannique du 19e siècle encore sur le bonheur conjugal ?
On a choisi de consacrer ce numéro de la bibliothèque idéale du 1 à Jane Austen parce que Jane Austen, c'est devenu presque une icône de la rom-com, quasiment. Les comédies romantiques sont quasiment toutes inspirées par Jane Austen. Il y a énormément de relectures de Jane Austen, jusqu'à évidemment le journal de Bridget Jones, notamment, qui est une adaptation moderne de Jane Austen. Mais en réalité, on a voulu replonger dans ce roman parce que, justement, elle n'est pas réductible aux clichés qui en sont faits. Et elle nous dit, à travers l'histoire d'amour de Lizzie Bennet, Elizabeth Bennet et Darcy, que, justement, les conditions d'un amour doivent être prises en compte dans le contexte social dans lequel il habite. Et que, finalement, il faut aimer de façon lucide. Il faut apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre à s'entendre avec l'autre, qu'il faut réussir à nouer ensemble cette cohésion entre deux, et que par ce fait, on va réussir à surmonter les obstacles de la passion. Dans le roman, il y a des obstacles qui sont liés à leurs différences de classe sociale. Et bien justement, Jane Austen nous apprend à voir comment est-ce que la construction du couple peut permettre d'arriver à asseoir une entente entre les amants qui va leur permettre de surmonter les tensions entre eux.
Et c'est ce que nous dit encore et toujours Jane Austen. La sociologue Eva Illouz a bien montré que la littérature modèle notre imaginaire amoureux et donc notre imaginaire du couple parfait, Julien.
Oui, et modèle dans les deux sens. C'est-à-dire que la fiction amoureuse, le roman d'amour notamment, est un modèle en le sens de on le prend comme exemple, mais ça va aussi être quelque chose vers lequel on va tendre. Alors on connaît évidemment Madame Bovary, nourrie de toutes ces fictions amoureuses et qui vont au contraire la perdre totalement parce que elle va être totalement prise par ces fictions qu'elle a lues.
Prise au piège par ces
fictions qu'elle a lues, et elle va en perdre le contact avec la réalité de ce que peut être l'amour, et donc elle va aller de déception en déception. Mais il est vrai en même temps que le modèle du roman d'amour va aussi nous apprendre à aimer, va aussi nous apprendre à reconnaître chez l'autre les sentiments qu'on croit décerner.
Cécilia Coumont.
Ah, c'est très joliment dit. Et alors en vous écoutant, je me disais, mais finalement celui qui est venu percuter, je trouvais très juste que vous disiez aimer lucidement, ça autorise à aimer fougueusement mais lucidement. Je me disais que celui qui est venu percuter Jane Austen, c'est Albert Cohen avec Belle du Seigneur, puisque Ariane et Solal sont bien incapables pour le coup d'être lucides.
Oui, Belle du Seigneur qui est l'un des grands romans de la passion, mais la passion dans le temps, c'est-à-dire comment il y a une forme de vanité à vouloir faire durer cette passion des premiers temps dans le temps. C'est à la fois un grand roman d'amour et un anti-roman d'amour. C'est ça qui est formidable avec du Seigneur, et que tous les jeunes amants devraient sans doute, à mon avis, lire pour voir quels sont les pièges de la passion.
Alors revenons à des choses beaucoup plus prosaïques. Pourquoi les sites et les applis de rencontre ont exacerbé cette recherche du couple parfait, du partenaire idéal, Camille Rocher?
En fait, je crois que on arrive dans le couple avec nos certitudes, les certitudes qu'on s'est faites depuis petit, avec les expériences qu'on a eues dans la vie, et donc les sites de rencontre. Alors évidemment que c'est, il y a quand même toujours derrière l'idée qu'on va rencontrer la bonne personne, et on met justement, et c'est ça qui est intéressant, dans nos critères, nos croyances, les certitudes qu'on a. Il faut absolument je rencontre tel critère, pour que la mayonnaise monte et que ce soit vraiment la bonne personne. Et en fait, c'est en ça où évidemment, et moi je vois tellement de patients qui sont déçus par ces sites de rencontres, parce qu'ils se disent, mais en fait, j'ai fait tellement de rencontres, et ça, entre le profil et la réalité de la rencontre, il y a une grande différence.
Mais parce que nous ne supportons plus le moindre écart avec notre idéal, avec ces applis et ces sites de rencontres. L'autre doit cocher toutes les cases au risque d'être trappé, et une fois trouvé, la partenaire a intérêt à se montrer à la hauteur de cet idéal. Cécile Como.
Mais si vous regardez ce qui cartonne sur les sites, c'est les applis de retouche, les filtres, les Photoshop, etc. Ça montre bien que l'imperfection est en passe d'être devenue intolérable. Donc on veut être parfait. Les couples n'y échappent pas. Il y a cette exposition du couple, comme disait Heidegger, d'objectiver mon amour devant tout le monde. Et je ne vais pas objectiver un amour qui soit de guingois. Je vais tâcher d'objectiver quelque chose qui soit quasiment parfait. C'est bien le paradoxe de 2022. C'est qu'on pouvait attendre, je pouvais attendre, parce que je n'ai plus 30 ans, que les trentenaires aient complètement dépassé ça. Or, ils sont dedans jusqu'au cou.
Alors, Nina nous écrit ceci. Combien de fois j'ai trouvé mon couple nul en observant les autres couples dans mon cercle amical, dans un café ou sur les réseaux sociaux. Les autres couples qui nagent dans le bonheur me rendent bien triste. Camille Rocher.
Ah non, mais je rejoins évidemment ce que disait Cécilia. C'est terrible, en fait, parce que ça, il y a même des personnes qui me disent, mais quand je regarde ces sites, tous les sites, les réseaux sociaux, je sors de là avec une tristesse qui m'envahit, en me disant, mais en fait, moi, je suis nulle, je fais pas ça, ma maison est pas aussi bien décorée, je suis pas aussi bien habillée, j'ai pas fait le sport qu'il aurait fallu que je fasse et tout. Et du coup, cette idée que je suis finalement plus digne d'être aimée à la hauteur de ce à quoi je mérite d'être aimée. Et ça, c'est vraiment, ça fait très très mal dans les couples,
Cécilia Como.
Il me semble de mémoire qu'il y a eu pas mal d'études sur Facebook et Instagram pour démontrer que les gens qui étaient connectés et qui consultaient beaucoup étaient plus déprimés que les autres.
Tout à fait.
C'est donc délétère de regarder la vie des couples heureux sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux.
Mais en fait, ça renforce justement nos croyances de perfection, de ce qu'il faut que je trouve dans le couple pour être aimé, pour aimer. Et donc, ça me renvoie directement à ce que je n'ai pas, à mon...
Gwenaëlle Boulay.
Oui, et puis moi j'ai l'impression que le malentendu de départ, c'est de se dire que c'est par le couple que je vais m'accomplir.
Oui. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui le lieu de l'épanouissement personnel.
Sauf que c'est là où il y a tout un travail à faire en tant que parent dans l'éducation de nos enfants, je pense. Ouais. C'est qu'effectivement, je pense que tant qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas la ressource intérieure, tant qu'on n'est pas accompli par soi-même, rechercher dans l'autre unique, identifier pendant 40 ans, 50 ans la source de notre épanouissement, moi je pense que le malentendu de départ, il est là.
Julien Bisson.
Oui, ça se voit aussi dans l'évolution de la littérature amoureuse. Pendant très longtemps, la littérature amoureuse a été justement une forme de sublimation de la rencontre et du couple, et qu'aujourd'hui il y a véritablement une forme de désenchantement qui se marque. Il y a un désenchantement qui n'est pas forcément grave, je veux dire par là, il y a aussi une vision, là aussi, plus lucide de l'amour, pour dire que l'amour n'est peut-être pas la seule grande histoire de nos vies, et qu'il y a d'autres formes de relations sociales et qui peuvent être présentes, et puis qu'il peut aussi y avoir plusieurs amours dans une même vie, et que ce n'est pas forcément ce qui est le plus grave.
Faut-il vraiment rechercher la perfection dans le couple ? Zoher nous a laissé une note vocale.
Oui, bonjour Ali. Alors, le couple parfait existe vraiment, je pense pas que c'est un couple qui va durer. Car un couple se fait sur les défauts de chacun. On a tous des défauts, ça permet de rebondir. Et je pense que changer nos défauts sous prétexte que notre partenaire les apprécie pas, bon, c'est clair qu'il faut faire des efforts. Mais voilà, le cerveau humain, enfin l'humain a besoin de cette adrénaline de mouvance dans le couple. Et je pense voilà, il faut s'adapter aux défauts de chacun. C'est ça qui fera durer le couple en tout cas.
Cécilia Como, sur ce que vient de nous dire Zoër, je rappelle que vous êtes psychanalyste et sexologue clinicienne.
Bah, il rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire avec, dès lors que vous voulez pas être seul, hein, vous êtes obligé de faire avec un autre. Un autre, c'est un autre que moi, avec ses différences, avec des défauts. Alors souvent aussi, en même temps, c'est un peu compliqué parce que souvent l'autre a des défauts que je vois chez l'autre ce que je ne veux pas voir chez moi. Donc j'ai une petite tendance effectivement parfois à projeter ce que je ne peux pas assumer de mon côté et ça me semble criant chez l'autre. Mais on peut tourner les choses dans tous les sens. À un moment donné, de toute façon, le couple bute à une chose qui est évidente, c'est que effectivement on a deux appareils psychiques différents, deux histoires, de sensibilité et que il va falloir. Alors les efforts, c'est pas un mot que les couples entendent et je comprends. On a l'impression qu'on part à la mine. Et je pense que il s'agit d'avoir des arrangements. Et si on veut vivre avec quelqu'un, on est obligé d'avoir des arrangements. Il n'y a pas de vie à deux sans décentration. C'est totalement impossible. Je le vois, ça amène droit dans le mur.
Alors Gwenaëlle Boulet l'évoquait tout à l'heure, hein, le couple amoureux est devenu le lieu de notre épanouissement personnel et c'est une pression invisible très forte qui pèse sur les couples avec des attentes parfois irréalisables. Dans la liste du couple tenté par la perfection, j'ai relevé ceci, ces questions, ces attentes, Cécilia Como, j'attends qu'elle soit compréhensive, qu'il soit proactif, qu'elle ait envie de construire, qu'il me comprenne, qu'elle me comble, qu'il me protège, qu'elle me désire et inversement.
Oui, non, et puis certaines d'entre elles se retrouvent en parfaite contradiction les unes avec les autres, ça n'embête personne. Souvent, par exemple, alors je donne cet exemple-là parce que c'est celui qui est revenu le plus de fois, des femmes attendent de leur conjoint qu'il soit à la fois très proactif, donc qui se pose alors ce qu'elles visualisent comme une certaine virilité, et dans le même temps, qu'il soit très à l'écoute, très communicant, comme si c'était une bonne copine. Et c'est des comme ça, ça s'empile en fait les unes sur les autres et à la fin vous êtes en face de quelqu'un et vous vous dites en fait je vais jamais correspondre à ce que t'attends quoi.
Alors vous évoquez une perspective hétérosexuelle, mais dans votre livre, vous vous intéressez à tous les types de couples.
Exactement pareil. Voilà, ouais, les couples gays ou lesbiens que je reçois, et c'était assez fascinant. J'en discute avec eux d'ailleurs, et ça les fascine aussi de se rendre compte que tout le monde fonctionne de la même façon.
Alors Camille Rocher, dans votre livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple », vous déboulonnez le mythe de la bonne personne. Un jour, mon prince viendra. Pourquoi est-ce pour vous une illusion ? Expliquez-nous un petit peu.
Alors, ça rejoint ce que disait Cécilia, c'est qu'en fait, dans le mythe de la bonne personne, souvent c'est incohérent parce que dans les qualités, je vais retrouver les défauts de ces qualités. Et dans les défauts, j'ai aussi des qualités. J'ai quelqu'un qui peut ne pas être ponctuel, mais en fait, c'est quelqu'un qui est super à l'écoute et qui n'arrête pas la conversation d'une personne qui a besoin de se confier, donc qui arrive en retard. Enfin voilà, bon, c'est un exemple, mais ce qui veut dire par là, c'est que chercher la bonne personne, la personne parfaite, il y a un moment donné où en fait, on en oublie que la question doit se retourner vers nous. Est-ce que moi, je cherche à être la bonne personne pour l'autre ? Et c'est là où on en arrive à ce que disait tout à l'heure la personne qui a laissé un message. Honnêtement, le couple parfait laisse l'illusion que on est d'accord sur tout. Et ça, c'est je suis la meilleure personne pour toi, tu es la meilleure personne pour moi, mais en fait, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de différent. Et donc, on a un couple, mais on n'a absolument plus deux personnalités. Et moi, un couple qui vient me voir en disant, mais on comprend pas pourquoi tout à coup ça va plus, ça fait depuis 15 ans, on est d'accord sur tout, on n'a aucun conflit. Moi, je me dis toujours, attention, il y en a un des deux qui se tait, qui ne dit pas et qui ne va pas au bout de ses vraies croyances à lui.
Et on reviendra tout à l'heure sur les conflits, les disputes. Cécilia Como, dans de nombreux scénarios amoureux, revient l'idée de prendre soin de l'autre, au risque bien sûr de s'oublier soi. Le fonctionnement du couple amoureux ne passe pas forcément par des sacrifices.
Ne devrait pas passer par des sacrifices. Le sacrifice a toujours un coût.
Mais parce qu'au,
il n'est
au nom,
jamais gratuit.
Au nom de la recherche du couple parfait, nous faisons trop de sacrifices.
Oui, beaucoup. Et encore hier, j'entendais quelqu'un... voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'empêchent beaucoup de choses pour que l'autre soit beaucoup plus confortable, que sa vie soit beaucoup plus confortable. C'est un peu cette métaphore dont je dis, vous entrez en couple, et puis vous êtes droitier, puis votre conjoint, ça l'embête que vous ayez un bras gauche, ça gêne, ça va pas quoi, ça va pas dans le tableau. Alors vous vous dites, mais je m'en sers pas de mon bras gauche, donc je peux l'enlever en fait. Avec un bras droit, comme je suis droitière, ça fera bien l'affaire. Et la question c'est, mais pendant combien de temps pensez-vous pouvoir vous suffire d'un seul bras? C'est pareil, il y a des gens qui s'empêchent beaucoup de choses. Alors c'est dommage parce qu'en plus, c'est des choses qu'on a acquis très souvent au sortir de l'enfance. Une autonomie, une sensibilité particulière, une façon de dire les choses. Et arrivé en couple, on reprend tout, on met tout de côté en disant ça c'est très gênant. Évidemment que les gens qui sont plus promptes à faire ce genre de sacrifice sont aussi des gens qui cherchent désespérément à ne pas déplaire. C'est ça le moteur principal. Et donc, pour ne pas déplaire, essaye d'enlever des petits bouts d'eux-mêmes au fur et à mesure, de beaucoup prendre soin de l'autre. C'est une autre version, parce que quand on prend soin de l'autre, finalement, on contrôle et on maîtrise. Si j'infantilise l'autre, il va être moins effrayant pour moi. Bref, à la fin, tout ce fonctionnement fait très souvent que celui qui a pris soin se rebelle.
Camille Rocher.
Alors, je suis d'accord et ça rejoint une des croyances dans mon livre qui est « Avec moi, il va changer ». Donc et voilà, évidemment que je rejoins. En revanche, je mettrais juste un petit bémol quand même sur la notion d'effort et de sacrifice. Moi, ce que je pense quand même, c'est que quand on est quand même obligé d'avoir un peu de renoncement, mais il y a une différence entre renoncer sur des valeurs essentielles qui sont extrêmement importantes pour moi. Par exemple, je peux voir des femmes qui ont renoncé à avoir des enfants parce que leur homme ne voulait pas. Là, évidemment, au bout d'un moment, il y a une dette qui se crée dans le couple et il y a une forme de dépendance affective. J'ai renoncé à ça, donc toi, tu dois combler mon renoncement. En revanche, le petit sacrifice de se dire, je sais pas, tu changes de boulot, on te suit, on part en province, moi je démissionne. Évidemment, ça se travaille, mais ça peut se faire. Voilà, il peut quand même y avoir quelque chose qui se fait à partir du moment où je ne viens pas toucher à une de mes valeurs essentielles sur laquelle je ne voudrais pas déroger. Alors évidemment, c'est du cas par cas, c'est de l'analyse. Mais quand on part du principe en se disant, moi je ne fais pas d'effort, et je suis d'accord avec vous, il y a énormément de couples qui disent, mais ce mot effort, on ne veut pas l'entendre. En fait, quand je vois que mon conjoint a fait un effort pour moi, alors que je sais que c'est dur pour lui, mais que là, il a vraiment fait cet effort-là, c'est quand même une preuve d'amour qu'on fait pas forcément au quotidien, mais de temps en temps, voir que cet effort est là, ça fait quand même du bien. Et pour ça, ça demande de se dépasser. On peut pas attendre que tout soit naturel. Et souvent, les couples confondent naturel et effort.
Oui, oui, mais ouais, je pense que c'est vrai, mais je pense que les mots renvoient aussi derrière, avec Chari, beaucoup d'idées. Ce que vous dites, qui est très juste, je dirais plus qu'il a eu une attention.
Mais ça peut demander un effort, ça peut demander un renoncement.
Je mettrai en exergue l'attention pour que ce soit plus simple à réitérer, presque, j'ai envie de dire.
Bonjour Sandra, bienvenue.
Oui, bonjour tout le monde.
Vous appelez de Vendée, bienvenue, on est ravis de vous accueillir.
Merci, c'est gentil. Moi c'était pour vous dire que je suis en couple depuis 1987 avec mon mari. Et en fait, on n'a rien en commun, mais vraiment rien. Donc c'est très dur en fait d'avoir quelque chose, et là depuis que les enfants sont partis, c'est encore pire. Moi, il faut en fait que je me remette souvent en question, parce que en fait mon mari, lui, il a toujours fait sa petite vie avec les enfants à côté, ses hobbies. Et moi, en parlant de sacrifice, je me suis rendu compte en fait que je me suis sacrifiée avec les enfants. Bon, après, j'étais pas forcément obligée aussi de le faire. Je l'ai fait. Mais maintenant que les enfants sont partis, j'ai mon mari qui est en face de moi, et je me dis, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et ça, c'est pas forcément facile. Voilà, donc il faut que je me remette en question, moi aussi, parce que j'ai droit à des choses. Mais je sais aussi, en fait, que au fil des années, on se retrouve, en fait, dans un système de routine. Et c'est pas toujours facile. Et en plus, on est un couple avec justement des hobbies complètement différents. que ce soit en tout, hein, que ce soit en politique ou en, on n'a vraiment pas les mêmes envies et les mêmes choses. Mais en fait, on arrive quand même à tenir. Voilà.
Camille Rocher sur le témoignage de Sandra.
Alors, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, avec les années, il y a un attachement qui se crée. On confond souvent amour et attachement. En fait, l'attachement est une ça fait partie de l'amour et l'amour fait partie de l'attachement. C'est vraiment quelque chose qui se noue avec le temps. Donc, avec le temps, il y a aussi de belles amitiés qui se créent, une confiance, une sérénité qui fait que ça peut faire du bien, même si on partage pas des hobbies, une passion. On peut quand même avoir des zones de sécurité qui sont agréable pour nous propulser dans l'avenir. Maintenant, là, il est évident qu'on parle ici du syndrome du nid vide avec les enfants qui partent. Et c'est sûr que de se retrouver à deux quand notre couple a été mis un peu de côté et qu'on a eu la tête dans le guidon avec chacun un peu en mode survie, on avance. C'est sûr que cette période-là est charnière et il faut se mettre un petit coup de pied dans.
Julien Bisson.
Oui, sur la tension qu'il y avait entre effort et attention, Mona Ozouf parle de Jane Austen justement. Et l'historienne Mona Ozouf parle de Jane Austen. Et de ce que dit Jane Austen, Orgueil et Préjugés, elle dit ceci. Pour Jane Austen, les sentiments sont une œuvre, il faut monter la garde autour d'eux. Et pour irriguer un amour durable, rien ne vaut l'amitié. Et ça me fait penser aussi à un autre écrivain qui est Tolstoï. Tolstoï qui avait écrit un grand roman d'amour qui était Anna Karénine. Mais dans Anna Karénine, la grande histoire d'amour, ce n'est pas tant celle entre Anna Karénine et Vronsky que celle entre Kitty et Lévin, qui est l'autre couple du roman, et qui essaie de cultiver justement cette attention à l'autre, y compris dans les difficultés. Et il y a aussi cette autre histoire dans Guerre et Paix. Dans Guerre et Paix, on a l'histoire d'amour entre le prince André et Natacha, qui est une histoire d'amour passionnelle, mais finalement où ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas. Et à la fin du roman, Natacha va se nouer avec, lier avec Pierre Bézoukhov, qui était son meilleur ami. Et là, ils vont développer des relations amoureuses.
Merci beaucoup, Sandra, de nous avoir appelé. Alors, venons-en à un mythe du couple parfait, bien communiqué. Cécilia Como, vous pilonnez l'idée que la communication... Vous pilonnez l'idée que la communication verbale permanente soit une clé d'un couple qui dure. Je vous cite, ce n'est pas parce que l'on parle beaucoup que l'on communique bien.
Absolument. Et comme je suis aussi sexologue, les couples me parlent beaucoup forcément de leur sexualité. Et il se trouve que la grande majorité des couples qui ont une sexualité un peu faible, ou au moins un des deux considère qu'il y a quelque chose là qui n'existe plus, communique hyper bien en me disant, mais alors on communique super bien, ça c'est pas le problème, on s'entend super bien. Et je trouve qu'il y a eu trop de choses sur l'obligation à communiquer et que personne n'a bien compris finalement qu'est-ce que voulait dire communiquer.
Mais qu'est-ce
avec
que ça veut dire? Parce qu'il vaut mieux bien communiquer que communiquer de façon dévalorisante, méprisante, violente.
Oui, mais ça c'est un prérequis. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous parlez, si vous méprisez, d'ailleurs j'en parle énormément ensuite dans l'autre chapitre, si vous méprisez, si vous manquez de respect à quelqu'un ou si vous l'ignorez, de toute façon, là, on est au point zéro d'une interaction, d'une relation. Et dire que c'est mauvais pour le couple, là, je pense que c'est une évidence.
Et ça veut donc dire quoi, bien communiquer au sein du couple?
Mais je pense qu'au départ, déjà, c'est écouter. Beaucoup de gens ont envie de parler. Je ne suis pas sûre que... je pense que l'intérêt premier de la communication, c'est l'écoute. D'ailleurs, beaucoup de femmes viennent dire « il ne m'écoute pas ». Elles ne viennent pas dire forcément « il ne me parle pas ». Ça, c'est la première chose. Et je pense que il y en a eu trop. Et du coup, tellement que moi, je vois des gens qui finalement, d'abord, un, se disent tout. Sont très transparents l'un avec l'autre. Deux, s'écrivent toute la journée pour se raconter par le menu ce qu'ils ont fait. Donc c'est bien, parce que comme ça, quand ils arrivent le soir, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'était un peu ce que Gwenaëlle disait, dans l'attente de l'autre, il faut non seulement qu'il soit mon amant, mon amoureux, mais mon meilleur ami, mon confident. Et c'est ça aussi qui pousse finalement à se confier en permanence. Au niveau de l'érotisme et de la libido, chez certains couples, ça ne fait pas bon ménage.
Qu'est-ce que vous préconisez alors? plus de mystère, plus
non,
de...
alors le mystère c'est un mot qui veut rien dire en fait quand on est en couple depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans parce que les gens se disent mais comment je vais être mystérieuse, c'est ça pas de sens, je vais même me cacher, je vais revenir. Donc c'est pas une histoire de mystère, c'est une histoire d'autonomie. Mmh. C'est de se dire que chacun a un appareil psychique, chacun a une vie intérieure et que ça m'appartient. Et c'est plus ça sera riche, plus l'autre aura envie de savoir ce qui se passe chez moi. Ça fait mon mystère. Ça peut être mes hobbies, les gens que je vois, le travail que je fais. Mais si je commence à déballer à chaque fois en racontant tout par le menu, c'est clair qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à découvrir chez moi. On n'a même pas le temps d'avoir envie de savoir que je le raconte déjà.
Les céréales vont être molles.
Hein ? Ouais, mais moi j'aime bien ça, moi, les céréales molles. Moi.
Bah oui, mais les céréales, ça se mange pas molle.
Et pourquoi ça se mangerait pas molle, les céréales ?
Parce que les céréales, on les mange croquantes.
Ouais, alors, si on les mange croquantes, pourquoi on met du lait dedans ?
Pour que ça passe mieux, pour le calcium. Quand tu mets du lait, t'as 3 minutes pour les manger.
Mais ça sort d'où ces conneries-là ? C'est ta mère qui t'a raconté ça encore ?
C'est pas ma mère qui m'a raconté ça. Mais nous, elles vont plus être bonnes.
Bon, je peux les manger comme je veux, mes céréales.
Mais y'a vraiment des fois, tu t'obstines pour un rien.
Vous avez sans doute reconnu un cas, une fille. J'aimerais qu'on aborde le cas des disputes. Cécilia Como, Camille Rocher, tous les couples se disputent, mais la première dispute peut traumatiser hein, quand on a idéalisé les premiers temps de son couple amoureux. Hein.
Alors moi, je ferais déjà une différence entre la dispute et le conflit. La dispute, pour moi, derrière, il y a un règlement de compte. Tout à l'heure, on parlait de trop communiquer, et je rejoins Cécilia là-dessus. Il y a beaucoup de couples qui se disent tout, et donc dans la dispute, qui vont se cracher tout le venin qu'ils ont envie de cracher, et c'est l'occasion pour tout dire. Le problème, c'est que ça blesse, ça crée du ressentiment, et au bout d'un moment, ça vient évidemment pourrir la relation, et on n'a plus envie de parler de ce qui ne va pas, parce qu'on en a peur. Alors que le conflit, c'est la conversation qui n'est pas très agréable, mais qui va être évidemment empreinte d'écoute, mais surtout, on va essayer de sortir gagnant-gagnant de ça. C'est vraiment se dire, attends, là, t'as des besoins, moi j'en ai aussi, ils sont pas trop compatibles, mais on va se décarcasser pour trouver quelque chose, une solution qui fait que tous les deux, même si c'est pas la solution idéale ni pour toi ni pour moi, on va quand même réussir à trouver quelque chose qui nous convienne. Et ça, quand on est dans la fuite du conflit parce qu'on a peur de la dispute, c'est là où le couple ne communique plus et on a l'impression qu'on est d'accord sur tout, alors qu'en fait, on ne dit pas les choses.
Cécilia Como, c'est quoi une bonne dispute c'est quoi ? C'est se disputer sans haine, sans rabaisser, sans humilier, sans violence.
C'est la question qui intéresse tout le monde. Sans insulte. À chaque fois, on me demande c'est quoi une bonne dispute comme pour se dire ce soir, ça y est, j'ai mode d'emploi. Je pense, alors, sans haine, sans violence, sans tout ça, la difficulté d'une dispute, c'est que c'est très émotionnel. Et vous ne pouvez pas, à un moment donné, stopper une vanne. Quand ça part, ça part. Donc, c'est toute la complication des disputes, malgré toutes les grandes méthodes de communication non violente, etc. C'est très compliqué de gérer une émotion très forte. Pour moi, une dispute, au départ, elle est toujours bonne. C'est-à-dire qu'il y en a bien un des deux qui cherche à être entendu. Il y a quelque chose qui n'est pas entendu et ça déséquilibre le couple et donc, à un moment donné, ça va forcer un rééquilibrage. Ce qui la rend mauvaise, c'est dès lors qu'on va utiliser une espèce de missile sol-sol pour exploser l'intégrité de l'autre. Et ça peut être très en douceur, ça peut être dans le silence, en étant dans la bouderie, ça peut être par le mépris, et le mépris ça peut être juste un sourcil qui se lève, c'est pas forcément... ou souffler, si quelqu'un vous parle, vous parlez à quelqu'un et quelqu'un vous fait... Comme ça, vous allez quand même le prendre comme un peu méprisant. Après, on passe effectivement à des insultes. Il y a des gens qui s'autorisent à insulter l'autre. Voilà évidemment des formes de disputes qui sont hyper préjudiciables à la longue. Les gens me disent, mais ça nous est arrivé de... Bien sûr, mais essayez donc de le faire de manière récurrente. Vous allez voir que c'est pas tenable.
La question du désir, est-ce que la fin du désir signe la fin du couple heureux, amoureux, Camille Rocher ? C'est une question qui revient beaucoup ce matin.
Oui, mais c'est une question qui revient beaucoup et moi j'ai énormément...
Finalement, je ne te désire plus, ça veut peut-être dire que je ne t'aime plus.
Oui, mais en fait, ça aussi, je pense que c'est la fausse croyance de la passion. Il y a un moment donné, si je ne ressens plus de désir pour toi, il faut que je me pose les vraies questions. Et que, mais quand je dis les vraies questions, c'est pas de se dire tout de suite, peut-être que c'est la fin de notre histoire. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver ce désir? Et ça, quand le couple arrive dans mon cabinet, je leur dis, on met... Pour l'instant, si vous voulez, s'il y a vraiment cette idée, on veut essayer de sauver notre couple, on met de côté l'idée de la séparation qui vient complètement brouiller mes idées, qui me fait une énorme, il y a une énorme perte d'énergie dans la recherche de solutions qu'on peut avoir pour savoir comment on fait. C'est pas est-ce qu'on reste ensemble, c'est comment on fait pour rester ensemble. Et donc le désir, il arrive là-dedans. Et honnêtement, pour moi, la perte de désir est un symptôme de quelque chose de la relation. C'est pas parce qu'il n'y a pas de désir que ça y est, il me faut absolument retrouver quelqu'un pour qui j'ai du désir. Non, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ?
Béa nous écrit « Le couple parfait existe bien, je le confirme. Il faut un minimum de points communs, écouter l'autre, échanger, partager, savoir s'isoler tout en faisant des concessions, des efforts, n'a rien sans rien. Et lorsqu'on y parvient, c'est le pur bonheur. » Alors, pour vous, quelles sont les clés de cette réussite du couple qui dure ? Donnez-nous quelques clés, Camille Rocher.
Alors, je pense que c'est toujours se remettre d'abord moi en question pour savoir si j'agis bien en fonction de l'autre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « aidez-moi à changer l'autre ». Moi, j'ai déjà tout fait, j'ai fait tout ce qui est, tous les efforts qui étaient en ma possession. Là, ça a été vraiment des efforts, ils sont au bout du bout du bout. Et ils me disent « et pourtant ça fonctionne pas, donc il y a un moment donné, il faut que ce soit l'autre qui change ». Et en fait, quand on observe, on se rend compte que les efforts qui ont été faits n'étaient pas les bons efforts. Souvent, on s'épuise à faire ce qu'on est persuadé qu'on doit faire pour que le couple aille mieux, mais encore embourbé dans nos croyances. Alors qu'en fait, si on écoute un minimum l'autre, on se rend compte qu'on peut faire d'autres choses parfois qui demandent beaucoup moins d'implication, mais pourtant qui vont être les bonnes choses qui vont aider le couple.
Cécilia Como.
Alors moi, je suis pas très bonne dans les conseils.
Vous le dites au début de votre livre.
Ah ouais, c'est pas mon fond de commerce. Mais effectivement, ce que dit Camille est juste. Ce qui est intéressant, c'est d'éclairer ce qui entrave. Et effectivement, les gens finalement ont beaucoup de capacités pour être heureux. Il y a pas une méthode particulière pour l'être. En revanche, ce qui les empêche de l'être, c'est tout ce qu'ils vont rajouter en termes de croyances, en termes de... Donc, moi, j'ai plutôt tendance à effectivement observer ce qui gêne. Alors, je pensais à ce que vous disiez sur changer l'autre qui revient souvent, mais la meilleure façon de changer l'autre, c'est de changer soi-même. Parce que les interactions qu'on établit avec quelqu'un, dès lors, elles se fixent sur un modèle action-réaction en permanence. Dès que vous changez un tout petit peu et que vous faites autrement, finalement, vous interpellez l'autre. En premier temps, il est interloqué. Deuxième temps, il change. À chaque fois, les gens se sont rendus compte que si je veux que l'autre change, il faut que je change ma façon d'être avec lui et je vais l'obliger, lui, de fait, à modifier aussi la sienne.
Le regard de Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Monde.
Non, c'est que j'écoute tout ça avec beaucoup d'intérêt.
Vous avez pris beaucoup de notes, d'ailleurs.
Oui, c'est en effet... Non, mais c'est un travail continu et les conseils, j'imagine, sont très peu faciles à donner.
Voilà. Merci beaucoup, Cécilia Como. Le couple parfait n'existe pas. Éloge de l'imperfection amoureuse. C'est publié chez Flammarion. Merci, Camille Rocher. Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple, c'est publié chez Larousse. Retrouvez dès maintenant tous les épisodes de notre série « Le couple kit de survie » sur le site et l'appli de France Inter.
Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.